7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, le retour des domestiques. C'est le titre provocateur d'un petit livre signé par un économiste et une chercheuse en sciences politiques. Bonjour Clément Carbonnier.
Bonjour.
Vous appartenez à l'université de Cergy-Pontoise. Bonjour Nathalie Morel.
Bonjour.
Vous êtes à Sciences Po, spécialiste des politiques publiques. En France, on parle plus de domestique depuis très longtemps. On est d'accord?
Alors effectivement, on a préféré changer le terme associé aux emplois qui se déroulent dans la sphère domestique. Donc on parle plutôt de service à la personne aujourd'hui. Mais un des résultats de notre étude, c'est de montrer que finalement...
Les mots ont changé, mais
les formes de l'emploi, pas toujours.
Nasser Hassidik, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avec nous, vous êtes une ancienne employée de maison. C'est la première fois que vous venez à la radio
en
direct.
C'est la première fois, oui.
Quel était le mot utilisé pour définir votre travail? Vous êtes resté 7 ans dans une famille.
Oui,
Qu'est-ce qu'on disait? On ne disait pas domestique.
Eux, ils ne disent pas domestique. Que j'ai travaillé chez eux, c'est comme la première fois que j'ai rentré chez eux, ils m'ont dit qu'on vous considère comme une de la famille. Voilà.
Ouais. Bah, on va en reparler bien sûr de votre histoire.
Bien
vous
sûr.
Avez été employée de maison pendant 7 ans.
7 ans.
Dans
7
une
ans
famille,
et demi.
7 ans et demi,
oui.
Pour garder des enfants, vous occuper de la maison.
De la maison.
En région parisienne.
C'est la Beaulieu, oui.
Les employés de maison, donc, je crois que vous l'avez compris, ce sont des personnes, à 96% des femmes d'ailleurs, chargées du ménage, de garder des enfants ou des personnes âgées. Ça peut être aussi des jardiniers, des chauffeurs. En France, ces emplois à domicile représentent 5% de la totalité des emplois, grâce ou à cause d'une politique fiscale avantageuse pour les patrons. Votre livre, Clément Carbonnier, Nathalie Morel, critique l'expansion de cette société des domestiques, y compris d'ailleurs dans d'autres pays développés. Des jobs mal considérés, avec quasiment pas d'évolution de salaire, presque jamais de formation, une protection sociale pas optimale pour plus d'un million de personnes en France. Alors est-ce qu'on vit désormais dans une société de service ou de servilité? Appelez-nous pour nous donner votre point de vue, si dans votre pays vous employez une personne qui prend soin de ce que vous avez de plus précieux au monde, vos enfants, votre maison, pendant que vous êtes au travail. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Et c'est aussi le numéro de téléphone WhatsApp, bien sûr.
Bonjour à tous les voisins. C'est Jean-Michel Cissé depuis Dakar. Je suis journaliste. Je voudrais un peu témoigner sur les femmes employées de maison. Elles ne sont pas très bien traitées ici au Sénégal parce que, par exemple, elles peuvent préparer à manger, elles peuvent laver les vaisselles et puis faire même la table. Après, elle n'a pas le droit de venir partager le repas avec la famille à table. Et après le repas, elle vient, elle nettoie. Je trouve ça paradoxal, mais ce qu'il explique, c'est qu'elles sont considérées comme des malpropres, comme de pauvres personnes mal civilisées, je dirais, qui n'ont pas d'hygiène. Il y en a même qui mangent dans les cuisines. Elles n'ont pas le droit de manger devant les étrangers, par exemple. Et concernant aussi leur paye, elles ne sont pas très bien payées du tout. Rares sont ceux qui atteignent les 70 000 francs. Elles travaillent 6 jours sur 7. À 5 heures du matin, elles sont déjà debout. Et pour se coucher au-delà de 22 heures, c'est-à-dire ce sont les premières à se lever et ce sont les dernières à aller au lit. La situation est assez catastrophique pour ces femmes de ménage ici à Dakar. Merci.
Merci pour ce message posté sur WhatsApp au 33 1 84 22 71 71. Bien sûr, vous continuez de nous appeler. On parle des employés de maison aujourd'hui, où que vous soyez dans le monde, bien sûr. Bouna, vous êtes également au Sénégal. Bonjour Bouna.
Bonjour Emmanuel.
Bouna, vous êtes à Thiès, pas très loin de Dakar. Vous avez 25 ans et vous avez fait des ménages pour payer vos études.
Oui, actuellement. L'avais fait pendant mes études universitaires à Dakar.
C'est ça, mais c'est plus le cas aujourd'hui, Bouna.
Aujourd'hui, j'ai arrêté depuis, mais quand je repense à tout cela, bon, Il se trouve que je devais faire quelques boulots pour combler certaines vidéos. J'ai dû travailler pour une dame.
Oui.
Je devais passer 4 fois par semaine laver la maison.
Oui.
Arranger des fleurs, faire quelques, laver quelques ustensiles de cuisine. Des fois,
c'est ça.
Il y en a à la maison.
Et il y avait des enfants, il y avait 3 enfants aussi dont il fallait vous occuper, Bouna, c'est ça?
Non, la dame avait 3 enfants.
C'est ça, mais vous faisiez juste le ménage, vous?
Le ménage à la maison, je ne m'occupais pas de main.
Oui.
La dame, elle était un peu ouverte avec moi, or que pour ses enfants et sa sœur, surtout à la maison, j'étais quasiment pas existant là-bas.
Vous n'étiez pas existant, c'est-à-dire invisible?
Invisible, il ne me saluait pas quand on se croisait. Même un jour, la cadette qui a 14 ans m'a trouvé dans la cour en train de faire mon travail. Il m'a observé après un peu, il m'a dit que ce travail-là appartient au désespéré. Et il m'a fait savoir que c'est sa tante qui lui a dit. Après toute réflexion, bon, je me suis dit que peut-être une gamine de 14 ans peut penser ça, mais c'est quelque chose que nous vivons actuellement ici. Certains travaux sont opprimés, les gens n'ont aucune considération pour ces gens de travail.
Aucune considération, pas de protection sociale parce que c'est un emploi informel. Et effectivement, le fait, comme vous dites si bien, Bouna, qu'une gamine de 14 ans dise elle-même, parce qu'elle l'a entendu et qu'elle l'a répété, que le travail que vous faisiez, c'est un travail pour les désespérés, effectivement, on peut s'interroger. Merci beaucoup, Bouna, de nous avoir appelés. Et puis, bonne chance pour vos études. Marc nous a posté le message suivant d'Abidjan, là, en Côte d'Ivoire. Il est employé de maison. Il dit que c'est pas facile. Il dit, tu es embauché pour faire la cuisine pour un certain prix. Tu t'es mis d'accord avec ton employeur, mais il te fait faire d'autres boulots. Et tu es obligé de faire, faire en plus pour ne pas être viré, écrit Marc. Il se comporte avec toi comme si tu n'étais pas humain. Ce n'est pas du tout facile d'être employé de maison, mais je suis obligée parce qu'il n'y a pas de travail. Ça vous parle, ce type de témoignage, Nassera?
Oui,
Sidique,
hein? oui. Parce que...
Vous, c'est en France, hein, on est
oui,
bien d'accord.
Oui, c'est en France, oui. Je suis passée par cette route-là. La première fois, ils me disent, voilà, vous faites rien que le manger pour les petits et vous faites un petit ménage comme ça. Et je me suis trouvée de me lever du 7h du matin jusqu'au 22h du soir.
Et donc, ce n'était pas juste le repas des petits
non,
et un coup
tout.
De ménage.
C'est la sortie, la rentrée d'école, le ménage, repassage, le manger, et tout dans la maison.
Vous nous appelez ou vous nous suivez aussi sur les réseaux sociaux. 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins. Parce que nous sommes tous des voisins.
Que vous inspire ces témoignages, Clément Carbonnier, Nathalie Morel? Vous avez travaillé sur la situation de la France. Bien évidemment, on ne peut pas généraliser par rapport à l'histoire de Nassera Sidi, qui va nous la détailler dans quelques minutes, ni même par rapport aux témoignages qu'on a entendus en Afrique. Néanmoins, pourquoi vous parlez du retour des domestiques? Est-ce qu'on vit réellement un retour en arrière, sous-entendu, Clément Carbonnier?
Oui, alors non seulement effectivement on a étudié le cas de la France, mais même majoritairement en fait on a étudié le cas de du travail déclaré qui s'ouvre d'autres problèmes, c'est-à-dire que on a souvent d'ailleurs le problème inverse, c'est-à-dire que plutôt qu'avoir énormément de travail avec des temps très 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 longs sous-payés, on va avoir des temps très courts, mais qui vont demander beaucoup de temps parce qu'il va y avoir beaucoup de transport, ouais, par
pour
exemple,
aller d'une maison à l'autre,
pour aller d'une maison à l'autre,
prendre le métro, le bus, etc.
Donc on va avoir d'autres formes de précarité. On va avoir officiellement on est déclaré, mais si on a peu d'heures, en fait, on va pas pouvoir avoir droit à toutes les prestations sociales non plus. Et puis, par rapport, c'est plus par rapport à, disons, aux emplois déclarés habituels, on va pas avoir les mêmes conditions de possibilité d'évolution de carrière, de formation continue, etc.
Mais pourquoi vous parlez d'un retour des domestiques?
Alors, l'idée, la domesticité, le point important qu'on voulait mettre en avant, en utilisant ce mot, c'est évidemment pas sur les tâches elles-mêmes, mais sur la condition dans laquelle elles se font et la relation directe entre quelqu'un qui travaille et un employeur qui est à la fois employeur et client. Et c'est cette relation directe aussi qui crée ces conditions de travail dégradées. Avec en plus un cas assez fort dans un mouvement plus général, on appelle la polarisation des emplois dans nos pays, où on a en fait effectivement des travailleurs qui sont, et des travailleuses souvent, enfin majoritairement, qui sont dans des situations très précaires, qui sont relativement pauvres, et qui travaillent et directement au
beaucoup,
service de gens
étrangers, très... de la main d'œuvre étrangère, émigrés.
Alors, sur les personnes déclarées, elles sont, il y a une majorité de gens nés en France, de parents nés en France, mais par contre, il y a une surreprésentation par rapport aux autres types d'emplois des personnes nées à l'étranger. Mais c'est une surreprésentation, c'est pas une majorité. Et le point important, c'est qu'on a effectivement des services qui sont majoritairement fournis dans des mauvaises conditions, avec des mauvaises conditions de travail et des faibles rémunérations par des gens, du coup, précaires et pauvres, à... directement à des gens qui sont à la fois employeurs et clients et qui sont les gens les plus fortunés de la société. Alors, c'est cette relation-là aussi
que vous remettez en cause et les politiques publiques très spécifiques en France d'ailleurs. Les employés de maison en France, c'est 77 000 personnes, hein, c'est ça, ménage, garde d'enfants au domicile de la famille. On est bien d'accord, on ne parle pas des assistantes maternelles qui gardent des enfants à leur domicile. C'est un tout autre sujet, hein, pour ne pas créer de confusion.
Pour des tâches qui sont relativement similaires, par exemple, si on prend les gardes à domicile, gardes d'enfants à domicile et les assistantes maternelles, on voit bien justement ce point qu'on voulait marquer sur le côté domestique, c'est qu'on a une tâche qui est similaire, garder les enfants, mais on a des conditions de travail, on a des conditions de protection sociale, on a des conditions aussi de liens directs qui sont pas les mêmes. C'est-à-dire que l'assistante maternelle, elle est beaucoup plus protégée, elle est plus formée, elle est plus contrôlée aussi, d'ailleurs, d'une certaine manière, mais du coup, à la fois en qualité de service et en qualité du travail et des conditions de travail, les choses sont totalement différentes.
Vous dites dans votre livre que cette évolution, ce retour des domestiques a été voulu, programmé, facilité par l'Union européenne pour permettre aux femmes de travailler, d'augmenter le taux d'accès à l'emploi. Et pour ça, il fallait bien qu'on fasse garder leurs enfants. Nathalie Morel.
Alors, nous, ce qu'on montre, c'est qu'effectivement, il y a eu un mouvement, notamment dans les années 1990, pour dire d'un côté, on a un fort taux de chômage chez les peu qualifiés, et d'un autre côté, on a des besoins croissants, notamment de prise en charge des jeunes enfants, de prise en charge de la dépendance. Et donc...
La dépendance, c'est-à-dire les personnes âgées. Hein.
Les personnes âgées, exactement. Et donc, c'est vrai qu'il y a eu tout un discours européen visant à essayer de promouvoir ce type d'emploi, avec dans l'idée que ça permettrait...
Qui partait de...
Oui, mais alors, sauf qu'on voit bien dans ce discours qu'il y avait l'idée aussi que ça permettrait de répondre à ses besoins à bas coût. Que ça serait... ça allait vraiment à l'encontre des idées qui avaient été mises en avant précédemment, qui étaient le développement d'un service public pour la prise en charge de la petite enfance, par exemple, qui visait d'autres objectifs, à la fois une meilleure distribution pour les ménages, quel que soit leur niveau de revenu, mais aussi une socialisation précoce pour les jeunes enfants, une meilleure égalisation des chances de vie pour les jeunes enfants qui auraient accès
à
des modes de qualité,
par exemple,
etc.
Ouais.
Et donc, c'est pas le choix politique qui est fait dans les années 90, où on va beaucoup plus vers une privatisation de ce type de service, où c'est censé répondre
donc,
du coup...
Ça, c'est un peu pour l'ensemble de l'Europe. La France a eu une politique très spéciale depuis les années 90. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste en quelques mots, Clément Carbonnier ?
Oui, alors l'idée, ça a été justement, comme l'a dit Nathalie, de ne pas chercher finalement à structurer l'offre, à la protéger, regarder la qualité des services, etc., ou voire à la fournir directement par un service public pour ce qui est des services sociaux. Ça a été vraiment de dire... il faut en baisser le prix, il faut en baisser le coût. Et implicitement, c'était l'idée, c'est les services
dans
qui
dans un pays où quand même le coût du travail et les charges sociales sont très importantes, il faut quand même le redire, hein, en France.
Dans un pays, effectivement, où il y a une protection du travail assez importante, à la fois en termes de sécurité sociale et de salaire minimum. Et donc, effectivement,
veut dire aujourd'hui, un couple, une famille qui emploie une personne à domicile pour s'occuper des enfants ou venir faire du ménage, tout simplement, même s'il n'y a pas d'enfants... elle bénéficie de crédits d'impôt, c'est bien ça.
C'est ça. En fait, ce qui se passe, c'est que 50% de ses dépenses lui
donc
sont remboursées.
Du salaire qui est versé à la personne.
Voilà, du salaire plus des cotisations sociales, de ses dépenses de services. Parce que ça peut être du salaire, mais ça peut être aussi un prestataire. C'est-à-dire que si elle paye du coup, ce qui n'est pas directement du salaire, si elle paye le service à une entreprise qui lui fournit une personne qui vient travailler chez elle, paiement aussi...
Là, c'est le cas d'un mandataire, en fait. Hein. C'est-à-dire que ce ne sont pas des salariés du prestataire, ils restent salariés du patron à son domicile.
En fait, il y a trois formes. Et ce qui crée aussi, d'ailleurs, la difficulté de protéger bien ses emplois, c'est qu'on a une multiplicité des formes, on a une très, très forte hétérogénéité, et donc on n'a pas de normes, et donc plus difficilement mettre en place la protection. Donc il y a trois formes. Il y a l'emploi direct, il y a l'emploi mandataire, où il y a effectivement une association, le plus souvent, qui va mettre en contact, mais l'employé derrière est salarié du patron. Et il y a le troisième, qui est le mode prestataire, où c'est directement, on achète un service...
Alors, ce que vous dites, c'est que finalement, ça revient à proposer une aide sociale ciblée aux plus riches en France, hein, avec le fameux crédit d'impôt. Ils vont payer moins d'impôts, donc cette main-d'œuvre va leur coûter moins cher. Hein, ils vont récupérer de l'argent à la fin de l'année, jusqu'à maintenant en tout cas, puisqu'on payait ces impôts tous les ans. Et c'était comme une contrepartie à des aides sociales qui étaient fournies aux plus démunis. Pourquoi, selon vous, cette politique, ou d'ailleurs vous parlez même de choix de société, c'est un mauvais choix.
Alors, c'est un mauvais choix à plusieurs ordres. C'est un mauvais choix parce que on parlait tout à l'heure de la question du service, le fait que ça partait d'une bonne intention, c'est-à-dire qu'il y avait des services qui étaient nécessaires, services sociaux, de garde d'enfants, de la dépendance. C'est un mauvais choix parce que derrière, ces services-là, ils ne sont pas rendus de bonne manière. C'est-à-dire que quand on regarde, par exemple, le cas de la garde d'enfants en France, la France est un des pays de l'OCDE, voire le pays de l'OCDE, dans lesquels l'accès au mode de garde formel est le plus inégalitaire.
C'est-à-dire les crèches,
C'est tout ce qui est formel, c'est-à-dire que c'est les crèches, les autres gardes collectives de type associatif, les assistantes maternelles et les gardes à domicile déclarées. Quand on regarde l'accès à ces modes de garde, à tous les modes de garde, et quand on regarde le taux en fait d'enfants d'âge préscolaire qui bénéficient du mode de garde formel, on a pour les enfants des personnes les plus riches un taux qui dépasse tous les autres pays de l'OCDE, c'est le plus gros taux. Et pour les enfants de parents plus pauvres, on a un des moins bons taux de l'OCDE. On a l'écart le plus fort. C'est-à-dire qu'un enfant, en gros, en France, un enfant de riche, il bénéficie quasi tout le temps d'une garde formelle, un enfant de pauvre.
Donc une crèche, hein. Parlons simplement s'il vous plaît.
Excusez-moi. Parce que, ouais. Il est gardé en crèche ou chez une assistante maternelle, ou en tout cas il est gardé de manière professionnelle tout le temps. Pour tous les enfants de riches, quasiment, sont gardés de manière professionnelle. Quasiment aucun d'enfant de pauvre n'est gardé de manière professionnelle. C'est impressionnant la différence. Et on a ça dans aucun autre pays.
Ce que vous dites, c'est que l'État n'a pas investi suffisamment ces 20 dernières années sur les modes de garde, les crèches, etc., collectifs, très professionnels, très contrôlés, etc. Et qu'elle n'a pas investi, et pour cause, parce qu'en fait, la mesure des réductions fiscales, des réductions d'impôts pour les emplois à domicile, ça coûte très cher, c'est un manque à gagner pour l'État. Ça coûte combien à l'État, toutes les réductions d'impôts qui ne sont pas perçues par l'État pour les personnes qui emploient des gardes à domicile?
Alors le crédit d'impôt lui-même, c'est plus de 4 milliards. Si on ajoute les baisses de cotisations sociales, les TVA, les autres formes d'aide, on monte à plus de 6 milliards. Donc c'est effectivement très important. Et c'est pour ça que c'est là où on dit que c'est un choix. C'est-à-dire qu'on a choisi de dépenser l'argent de cette manière-là plutôt que la dépenser d'autres manières pour fournir directement à des services, à plus de gens, à des gens qui en ont besoin, y compris des parents moins fortunés. Et c'est pas ce qu'on a choisi de faire. On a choisi d'avoir juste cette subvention qui, in fine,
Avec 6 milliards, on pourrait faire beaucoup mieux, c'est ça. On pourrait créer des places de crèche, être beaucoup plus efficace que d'aider les riches à avoir des gardes d'enfants à domicile.
C'est ça.
On est bien d'accord.
Créer des gardes, des places de crèche, et on pourrait fournir aussi directement aux personnes dépendantes, indépendamment, disons, de leurs revenus, les services finalement médicaux, d'une certaine manière, dont ils ont besoin.
On parle bien de crédit d'impôt. Ça veut dire qu'un couple qui ne paye pas d'impôt, la majorité en France, hein, on est d'accord, qui n'est pas imposable, s'il emploie une personne à domicile pour faire garder son enfant, pour que le papa et la maman aillent travailler, il ne peut pas bénéficier donc d'une réduction d'impôt, on est d'accord, puisqu'il n'en paye pas.
Oui, mais il reçoit un chèque.
Donc, il reçoit un chèque de l'administration fiscale.
Le crédit d'impôt, le principe
donc,
du crédit d'impôt,
c'est qu'il n'y a pas cette injustice-là, on est d'accord.
C'est vraiment 50% des dépenses de services sont remboursées. Et il se trouve qu'elles sont remboursées dans le cadre de l'imposition des revenus. Mais si on a moins d'impôts que de droits au remboursement, on reçoit un chèque. Donc ça, c'est pas le problème n'est pas là. Enfin, au départ, c'était pas le cas. Mais ça a été modifié, donc maintenant, c'est ça. Non, le problème, c'est que les personnes ont quand même 50% à payer. Et que pour des parents...
Il faut avancer l'argent.
Non, il faut l'avancer. Et puis, de toute façon, les 50% qui ne sont pas remboursés, c'est plus que les avancées. Il faut les dépenser. Et beaucoup de gens n'ont pas les moyens pour faire garder leurs enfants à 50% du prix.
Et c'est clair qu'effectivement, ce n'est pas les personnes les plus modestes qui peuvent faire garder leurs enfants à domicile, puisque c'est de toute façon plus coûteux qu'une place en crèche, puisque le tarif de la place en crèche, c'est en fonction des revenus des familles. 7 milliards de voisins, on parle des employés de maison. Alors, est-ce que selon vous, on vit dans une société de service à la personne ou de servilité? On peut s'interroger, en tout cas, à la lumière de ce que vous venez de nous expliquer tous les deux, Clément Carbonnier et Nathalie Morel. Et dans un instant, on va vous donner aussi la parole, Nasser Hassidik, sur votre histoire. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Chez 7 milliards de voisins sur RFI, le titre c'est Working Day and Night. C'est un peu ce que vous avez vécu, Nasser Hassidik, puisqu'on parle des employés de maison aujourd'hui. Vous êtes arrivé d'Algérie il y a 11 ans maintenant,
Depuis 2007.
C'est ça. Et un peu plus, et vous avez pendant 7 ans et demi, vous nous le disiez en début d'émission, gardé 3 enfants dans une famille. Au début, ça devait être juste les repas des enfants,
repas,
et un petit coup de ménage. Et puis ça s'est transformé en un emploi du temps... des journées à rallonge.
Voilà.
Vous étiez logé sur place.
Oui.
Hein. C'est pour ça que vos patrons justifiaient de ne vous donner que 700 euros par mois.
Par mois, oui.
Hein, évidemment, très en dessous du salaire minimum.
Oui.
Parce que vous étiez logé. Vous n'étiez pas déclaré.
Non.
Parce que vous n'étiez pas en situation régulière à l'époque. Hein.
Oui.
Aujourd'hui, vous êtes en situation régulière. Comment vous avez vécu ces 7 années?
Cette année, je les ai vécues comme... Par contre, la première fois, j'ai pas fait attention parce que, tandis que j'avais besoin d'argent pour mes enfants, j'ai accepté. Même s'ils me donnent 500 euros, j'ai accepté parce que j'avais besoin. Mais
vous avez été augmentée au cours de, des 7 ans et demi?
Non, pas du tout.
Parce que normalement, dans un emploi, on est augmenté pendant 7 ans.
J'ai demandé et ils n'ont pas
voulu. Il y a le coût de la vie qui augmente.
Voilà. J'ai demandé parce que les 700 euros, ça rentre dans le médecin, les médicaments, mes courses, mes transports, tout.
Vous n'étiez pas nourrie, hein, on est d'accord?
Non, pas du tout. Non.
Vous avez été licenciée en 2014, enfin licenciée. Enfin,
j'étais licenciée.
Vous n'étiez pas employée officiellement, donc.
Voilà, j'étais licenciée. Pourquoi? Parce que comme j'avais une agression à côté de chez eux, et c'est tout à fait normal. Mon patron, il a eu peur s'il y avait une enquête et ça et ça. Et une semaine après, il m'a dit. Vous prenez vos affaires et vous partez.
Donc vous n'avez pas eu d'indemnité. Vous êtes rapprochée du syndicat CFDT des assistantes maternelles et salariées des services à la personne.
Oui.
Et vous êtes allée en justice.
En justice par le prud'homme. Oui.
Ouais, grâce au syndicat.
Au syndicat.
Et
oui.
Vous avez gagné.
Oui.
C'est-à-dire que vous avez touché une indemnité.
Une indemnité, toutes mes congés qui n'étaient pas payés, mon licenciement, c'est tout. J'étais payée partout, par tous les côtés, le congé payé, mes heures supplément, tout.
Alors du coup, les impôts vous ont réclamé de l'argent?
Ils m'ont réclamé de l'argent.
Alors qu'avant, évidemment, forcément, vous n'étiez pas imposable, puisque officiellement, vous ne gagniez pas d'argent.
Et,
mais finalement, est-ce que vous avez le sentiment, Nasser Hassidik, clairement, vous dites que vous avez été, que vos patrons ont abusé de vous, en vous faisant travailler trop dans des mauvaises conditions pour un salaire inacceptable. Est-ce que vous avez le sentiment que cette situation est plus répandue qu'on ne pourrait penser dans un pays comme la France?
J'y pensais pas, non. Parce que j'ai dit que c'était un pays qui est ouvert, qui est... Voilà, j'y pensais pas, non.
Aujourd'hui, vous recherchez un emploi?
Oui.
Qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que vous aimeriez faire dans l'idéal?
Dans l'idéal, pas dans les maisons.
Vous voulez plus retourner chez les particuliers?
Ah non. Parce que jusqu'à maintenant, moi, je suis suivie par le psychologue du tribunal de Créteil. Jusqu'à maintenant, je suis suivie par mon agression. Et pourquoi je retourne
pas? Vous n'avez pas été agressée par vos employeurs, attention, c'était parallèle.
Non, mais... c'était parallèle. Ouais.
D'accord. Mais qu'est-ce que vous aimeriez faire comme métier?
Dans les locaux, voilà, dans les hôtels ou...
C'est-à-dire que vous aimeriez continuer à faire du soin de maison, de faire des ménages, des choses comme ça, mais plutôt dans des hôtels?
Voilà, des hôtels ou dans les hôpitaux, quoi, comme ça. Mais dans les maisons, non.
Être soignante? Vous verriez être soignante, par exemple?
Si c'est possible, oui, pourquoi pas.
Vous n'avez plus envie donc, de travailler dans une famille de particuliers?
Mais... Moi, j'aime les enfants. Ces enfants, ils étaient comme
c'est
mes
ça.
Enfants.
C'est pas votre travail en tant que tel que vous n'aimiez pas.
Voilà. C'est pas question que j'aime pas les enfants. Non, au contraire. J'aime même travailler dans les maisons, j'aime le ménage. Même maintenant, quand je reste à la maison, je m'ennuie. Justement, je suis inscrite dans le bénévolat, dans le Restaurant du Cœur. Je me suis inscrite. Pourquoi j'aime pas rester à la maison? J'aime travailler. Mais simplement, dans les maisons, avec une famille, je pense pas.
Est-ce que vous comprenez pourquoi cet emploi est tellement dévalorisé alors que les enfants, la maison, c'est ce que les gens ont de plus précieux dans la vie?
Voilà.
Comment ça se fait? Vous le sentez bien que ce travail-là, il n'est pas assez valorisé?
Non, j'aime bien ce travail-là, mais tellement que peut-être que j'étais un peu naïve avec eux, j'ai aimé leurs enfants et j'ai travaillé bien. C'est pour ça que maintenant, ça me touche, je peux pas, j'ai peur de retourner comme ça et ça m'arrive quelque chose là, c'est...
On va donner la parole à des auditeurs et bien évidemment vous pouvez réagir quand vous le voulez, Clément Carbonnier, Nathalie Morel, puisque vous avez publié Le Retour des Domestiques, hein, où vous critiquez la politique française d'aide de l'État aux employeurs d'emploi à domicile. Ça peut être femme de ménage, garde d'enfants, jardinier, chauffeur, c'est assez large hein, ceci dit. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Dimo nous appelle de Libreville au Gabon. Bonjour Dimo.
Bonjour.
On vous écoute Dimo. Alors, vous vivez dans une maison où il y a une employée de maison, c'est bien ça dans votre famille?
Oui, c'est exactement cela. Et j'interviens au niveau de son traitement, parce que généralement, ce sont des femmes qui sont maltraitées. Et par contre, moi, ma mère, elle traite bien les employés. Et là, on en a une, ça fait 7 ans qu'elle est avec nous. Je peux dire qu'elle fait un peu partie de la famille maintenant. Et malgré l'aisance et les relations que nous avons développées, elle reste respectueuse envers nous. Donc, elle est devenue notre tata. Elle est jeune, elle a 2 ans de plus que moi, donc 38 ans. Mais ça se passe très bien.
Alors j'imagine que si elle reste depuis 7 ans, c'est qu'elle a un salaire convenable par rapport à d'autres employeurs qu'elle pourrait trouver, parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs sur le continent africain qui se plaignent de leur personnel de maison qui part du jour au lendemain pour un employeur plus offrant un côté comme ça un peu mercenaire. C'est pas le cas de la personne qui travaille chez vous, donc si j'ai bien compris, Dimo.
Non seulement elle est bien traitée. Elle a, je ne veux pas dire qu'elle a un gros salaire, mais elle a un bon salaire. Et dernièrement, on lui a confié mon neveu, le fils de mon frère. Il a 3 ans maintenant, mais elle a pris bébé. Et on a ajouté, en fait. On a presque doublé son salaire pour cette tâche-là. Donc, niveau salaire, il n'y a pas de problème.
Pour cette tâche supplémentaire. Est-ce qu'elle a une mutuelle santé ?
Il n'y a pas non plus de problème.
Est-ce que l'employé de maison chez votre maman a une mutuelle santé ?
Pas de la part de ma mère, mais de la part de la CNAMGL, donc la caisse d'assurance qui s'occupe de tous les Gabonais.
D'accord, mais pas de mutuelle.
Et elle est rangée dans la catégorie des économiquement faibles, puisque le travail n'est pas déclaré en fait. Elle est dans l'informel.
D'accord. Et autour de vous, la plupart des employés de maison travaillent dans l'informel non déclaré au Gabon ?
Oui, je dirais à 100%, hein, dans les ménages, dans les foyers, c'est à 100%.
Merci Dimo de nous avoir appelé. On va donner la parole à Chérif qui nous appelle de Dakar. Bonjour Chérif.
Bonjour.
Vous avez 34 ans, vous êtes banquier et employeur de personnel de maison, si j'ai bien compris.
Tout à fait. 44 ans par contre.
Pardon, 44 ans. Quelle est la situation ? Vous avez la parole, Chérif.
Alors, moi je rejoins un peu le commentaire de la dame qui vient de sortir. Donc, je prends régulièrement du personnel de maison bien traité, qui prépare à manger, qui mange avec nous, qui s'occupe des enfants de temps en temps. Mais moi, je pense que on a un personnel très instable ici au Sénégal. Peut-être que c'est parce que le niveau d'éducation ou peut-être les objectifs ne sont pas clairement définis. Et notre environnement aussi, l'organisation, si vous voulez, il n'y a pas de caisse de sécurité, il n'y a pas de syndicat, il n'y a pas tout ça, ça n'existe pas chez nous. Mais pour l'essentiel des gens qu'on prend, à un moment ou à un autre, ils nous montrent qu'ils ne sont pas engagés dans ce qu'ils font. Alors que nous, contrairement à tout ça, on a l'obligation de pointer à 1 heure, de descendre à 1 heure, on fait des heures supplémentaires qui ne sont pas payées, entre autres. Hein. Et aujourd'hui, un cadre chez nous touche 1 000 euros à tout casser. Donc, on a un gros problème à ce niveau-là. Et je ne parle pas maintenant de je pense que tous les Sénégalais vont se reconnaître dans ce que je dis. Et lorsqu'on a des fêtes tabasquées, les fêtes religieuses, corité, c'est des gens qui peuvent partir pour 1 mois sans vous donner d'informations sur la situation de leur reprise.
Ouais, alors que vous, en tant que cadre, vous devez être corvéable et très disponible pour votre entreprise. Donc, ce qui pose des problèmes, c'est ça, pour faire garder les enfants.
Voilà. C'est un très gros problème.
Ouais. Quand vous parlez de personnel de maison qui n'est pas engagé dans son travail, combien gagne une employée de maison chez vous ou chez vos voisins ?
Bon, pour les gens que je connais, c'est en moyenne 50 000 francs CFA.
Ce qui ferait en euros, grosso modo
Disons 100 euros.
Ouais. Vous convenez que...
Mais pour quelqu'un qui touche 1 000 euros.
C'est ça.
Un cadre de banque au Sénégal peut toucher 1 000 euros.
C'est ça. Vous convenez que c'est quand même un salaire assez bas compte tenu du coût de la vie au Sénégal. Et c'est peut-être aussi pour ça que les personnes peuvent s'en aller du jour au lendemain si elles trouvent plus offrant, même de quelques euros, d'une petite poignée d'euros par mois d'ailleurs, pour un différentiel très petit.
Tout à fait. Ça, quelque chose qu'on comprend pas facilement.
Les employés de maison sont pour la plupart non déclarés, pas de mutuelle santé, pas d'avantage de ce type qu'exigerait bien évidemment un employé ou un cadre dans une entreprise formelle.
Tout à fait. Mais il faut comprendre que ce qui se passe pour l'employé de maison se passe aussi pour le cadre de banque que je suis. Hein. Mmh. Aujourd'hui, lorsqu'on vous dit on vous fait une prise en charge médicale, on peut vous faire une prise en charge médicale, disons, de 80%, mais ces 80% ne sont pas par rapport à tous les soins que vous faites. Je vous donne un exemple. On vous dit on va vous faire des soins dentaires, mais on vous fait un plafond. Vous devez payer une facture de 2 millions. On vous dit on vous prend en charge 180 000 francs CFA.
Oui. Oui, d'accord, voilà, on est bien d'accord. En fait, ce que vous voulez dire, c'est que la société sénégalaise, l'économie sénégalaise met tout le monde dans une situation qui n'est pas facile et que donc les employés de maison sont certes en bas, mais ne sont que le reflet des difficultés générales. Sauf que votre employé de maison, quand elle est malade, n'ayant pas de mutuelle santé...
Je suis obligé de la prendre en charge.
C'est ça, ça veut dire que c'est votre bon vouloir, vous allez lui payer ses médicaments. Donc certains pourraient arguer d'une forme de paternalisme. Je ne prends pas position sur ce que vous dites, on est bien d'accord,
chérie. Je suis d'accord à 100% avec vous.
D'accord, mais merci pour votre franchise et votre distance aussi pour voir tout ça. On le voit bien, les situations sont bien différentes d'un pays à l'autre, quoique finalement, pas tant que ça. Merci chérif et très bonne journée à Dakar. Nathalie Morel, comment vous réagissez par rapport à ce qu'on a entendu? Alors en France évidemment, aujourd'hui avec la succession des politiques publiques depuis le milieu des années 90, est-ce qu'on peut dire que la majorité des emplois à domicile sont déclarés maintenant? Parce que c'est plus avantageux pour les patrons.
C'est évidemment difficile de savoir quelle est la part submergée de l'emploi domestique, qui reste probablement assez important. Le fait est que, en tout cas, l'introduction du dispositif de réduction d'impôts en 1992 a permis de blanchir une partie de cet emploi non déclaré. Mais je voulais revenir un petit peu par rapport aux différents témoignages. Oui. Une chose que je trouve frappante, c'est le mot qui revient, c'est dévouement ou l'implication dans ce type de tâche. Et je pense que c'est quelque chose qui est caractéristique aussi de ces emplois, y compris dans la partie des emplois déclarés. C'est une des raisons aussi de la précarité de ces emplois, c'est qu'il y a une relation interpersonnelle très forte qui se noue dans ces emplois.
On est dans la relation humaine,
dans
l'émotion.
La relation humaine, etc. Donc par exemple, quelqu'un qui va travailler auprès d'une personne âgée dépendante, en tant qu'auxiliaire de vie par exemple. Elle va être rémunérée pour aller intervenir 2 heures au domicile de la personne, par exemple. Mais si la personne, d'abord, elle peut, on a beaucoup d'exemples où la personne, elle va être peut-être souffrir de démence, etc. Elle va être agressive verbalement, par exemple, envers la personne. Donc il y a ça. Mais d'un autre côté, elle va aussi avoir besoin, de parler un petit peu plus. Elle va avoir besoin.
Et puis il y a une forme d'attachement humain. C'est
exactement.
Normal. D'ailleurs.
Et donc c'est très difficile pour l'auxiliaire de vie.
C'est pas un robot qui s'occupe
de dire,
la vie d'âme.
Ça y est, l'heure est finie, il faut que je parte, etc. Donc elle va
Et c'est pareil pour les enfants, d'ailleurs, vous le disiez, Nasser.
Il va y avoir l'attachement aux enfants, va y avoir, l'employeur va dire, finalement, tu fais partie de la famille. Donc ça crée aussi une relation de dépendance qui peut être très forte, qui est très difficile pour le salarié de sortir de cette dépendance et de dire, ça c'est mes horaires, comme on le ferait dans un autre emploi en entreprise, par exemple.
Néanmoins, Clément Carbonnier, depuis le milieu des années 90, où on démarrait toutes ces politiques d'incitation fiscale, avec des réductions d'impôts, des crédits d'impôts, des baisses de charges, de cotisations sociales pour les patrons qui emploient du personnel à domicile, ou des exonérations totales, d'ailleurs, comme ça a été le cas à certaines périodes. Pourquoi les gouvernements socialistes, on a eu des gouvernements de gauche depuis le milieu des années 90, pourquoi les gouvernements socialistes successifs n'ont jamais vraiment remis en cause cette politique d'avantages fiscaux et d'avantages de cotisations sociales?
Alors, pourquoi ça
on n'a pas une heure pour répondre, mais en quelques mots, vous avez quand même des éléments de réponse.
On a quand même deux éléments. Si, il y a eu une remise en cause partielle en 98 sous Jospin qui avait diminué de moitié le plafond.
À chaque fois, on diminue un peu le plafond, puis après il remonte, il redescend.
Tous les autres,
pas à chaque fois, il n'y a eu qu'une fois.
Ça a été diminué qu'une seule fois sous un gouvernement socialiste. Tous les autres gouvernements, et notamment de droite, c'est eux qui ont beaucoup élevé le plafond des dépenses éligibles. Mais sur la question de pourquoi et pas de remise en cause. On a un secteur des services à la personne qui s'est constitué avec des gros acteurs privés, toutes les grosses entreprises de ménage ou de soutien scolaire qui font aussi un puissant travail de lobby qui vont dire mais si vous touchez à ce crédit d'impôt, c'est tant d'emplois qui vont disparaître, par exemple. Et donc évidemment, c'est un
argument. 1 200 000 emplois, hein, c'est ça, les emplois.
1 200 000 personnes.
De 1 200 000 personnes, pardon.
Parce que, alors, enfin, ça dépend comment on compte les emplois, ouais. Mais une personne qui va travailler, travailler un petit peu.
Non, vous avez raison, c'est 1 200 000 personnes.
Et justement, le point, c'est que 1 200 000 personnes, donc dans le secteur déclaré en France, mais qui représente beaucoup, beaucoup moins d'emplois, parce que c'est énormément de temps très partiel. Donc ça, c'est quand même un point qui est très important. Je voulais juste rebondir sur votre témoignage, notamment sur ce que vous dites, sur le fait que vous voudriez travailler en hôpital ou ouais. Je trouve que ce qui est intéressant et ce qui fait le lien avec ce qu'on voit, c'est que on voit bien que c'est pas le problème de la tâche qui reste pénible en hôpital, l'attachement qui reste fort potentiellement quand on est aide-soignant, et puis les tâches qui restent là, qui gardent leurs difficultés quand on est dans un hôtel, etc. Mais plus la relation et les droits qui sont associés. C'est-à-dire que si on travaille dans un hôpital, si on travaille dans un hôtel, déjà on a des collègues, on les rencontre, et avec ces collègues, on peut avoir aussi un accès plus rapide et plus facile à la connaissance de ses droits au syndicat. Finalement, vous avez eu accès à un syndicat qu'après votre licenciement. Quand si vous êtes plusieurs travailleurs à
de
l'hôtel,
la formation continue, par exemple.
Et du coup, à de la formation continue, aux droits sociaux, etc.
En termes de salaire, c'est largement discutable. Une femme de ménage aujourd'hui à Paris, elle peut gagner jusqu'à 2 fois le SMIC horaire, et en tout cas beaucoup plus, par exemple, que dans un fast-food.
Alors, ça dépend des cas, mais ce qu'il faut bien voir, c'est peut-être le SMIC horaire. Alors, 2 fois le SMIC horaire, ça me semble... Enfin, j'ai pas tous les chiffres.
Pas tout à fait, mais...
Ça me semble un peu exagéré. Et derrière, il faut voir qu'elle va avoir... Quel est son temps de transport pour chaque heure de ménage fait. Si vous travaillez dans un hôtel, vous avez le temps de transport le matin. Si vous travaillez dans un hôpital, vous avez le temps de transport le matin. Vous avez toutes vos heures qui sont collées les unes aux autres, avec potentiellement des postes qui sont des vrais postes de repos et pas du
exact.
Transport.
Exactement. Voilà, donc, toute la question est de savoir si on peut enchaîner aussi, 8 heures d'affilée ou 7 heures d'affilée d'heures à 13 euros, ce qui n'est pas du tout évident chez un même employeur. Effectivement, vous faites bien de le souligner. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Je voudrais lire le témoignage d'une auditrice en Côte d'Ivoire qui nous dit « Nous, Africains, dénonçons tout le temps l'esclavage, mais dans mon pays, être employé de maison s'apparente à de l'esclavage. Les employés de maison préfèrent les familles d'expats car le salaire est garanti, même si ce n'est que le salaire minimum. » Alors, il ne s'agit pas de stigmatiser le continent africain, puisque on l'a bien compris avec votre histoire, Nasser Hassidik, on peut avoir des cas similaires ailleurs dans le monde, y compris en Europe, et bien plus nombreux qu'on ne pourrait l'imaginer. Je voudrais maintenant qu'on essaye de voir quelles sont les solutions que vous préconisez, une fois qu'on a démonté les politiques publiques depuis les années 90 en France. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ces 6 milliards, plus de 6 milliards d'euros de manque à gagner pour l'État, dans quoi il faudrait les réinjecter? Parce qu'il faut bien à un moment donné que si l'homme et la femme sont au travail, il faut bien que les enfants soient gardés, qu'il y ait un peu de service au domicile, etc. Écoutez le message WhatsApp d'un auditeur.
Moi, je suis Alfred depuis Libreville. Pour les métiers comme ménageur, jardinier et tout, je crois que c'est en train de se professionnaliser. Des métiers comme nounou, c'est-à-dire babysitter, sont en train de se professionnaliser. C'est-à-dire, il y a des entreprises, il y a des petites boîtes. Si par exemple, vous voulez un jardinier à la tâche, si vous voulez juste un gars tout de suite pour entretenir quelques arbres et tout, il vient juste et il fait ça, après il part. Vous n'avez pas à l'embaucher pour le mois et tout. Du coup, il n'a pas à subir vos sautes d'humeur, vos... et tout ce qu'il y a. Donc je crois que les métiers comme ça, c'est mieux que ça se professionnalise comme ça, du travail à la tâche, et ça peut être une solution au conflit des maisons et tout.
Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une des solutions que vous préconisez. Donc des entreprises qui salarient des personnes pour qu'elles aillent effectuer des prestations de services chez des particuliers.
Alors, ça peut être une solution à condition de mettre en place les conditions de travail, le contrôle du travail dans ces entreprises-là. Le problème en France, c'est qu'il existe de plus en plus d'entreprises prestataires de ce type-là, mais qui sont en très forte concurrence avec l'emploi direct. Et donc, finalement, on leur impose... peu, et les conventions collectives sont minimales parce que on donne le moins de droits possible pour que ces entreprises puissent concurrencer l'emploi direct.
Ça crée un intermédiaire. Derrière, donc comment les gens peuvent gagner autant qu'en étant employé directement par une famille à la maison? Il y a un intermédiaire du coup.
Oui, mais l'intermédiaire arrive alors fournir plus d'heures de travail généralement. Ça, c'est la différence finalement entre les employés de particuliers employeurs.
Et à moins morceler le travail et les différents clients, hein, c'est ça.
Voilà, et puis à proposer aussi une formation sur le lieu de travail, etc. Mais nous, notre proposition, ça serait aussi surtout de financer ces services différemment. Là, ce qu'on montre, c'est que par le biais de cette politique, le coût par emploi créé est très très élevé, bien plus élevé qu'il ne le serait si on finançait directement des services que l'on pourrait mieux cibler sur les besoins sociaux, c'est-à-dire la prise en charge des jeunes enfants, où on a vraiment un besoin avéré, mais aussi la prise en charge des personnes âgées dépendantes. On pourrait avoir un accès beaucoup plus universel, à un coût plus, en tout cas équivalent, mais un coût par emploi créé plus faible, mais on pourrait créer de meilleurs emplois, des emplois à temps plein, assortis à une couverture sociale complète, etc. Donc on montre que c'est
meilleure cotisation à la retraite notamment.
Tout à fait, donc on montre que là c'est un choix budgétaire particulier qui a été fait. On subventionne des particuliers plutôt que de subventionner des services, et que c'est vraiment suboptimal, à la fois en termes de création d'emplois, le nombre d'emplois créés, en termes de qualité d'emplois créés, mais aussi en termes de fourniture de services sociaux. Pourtant,
pour les gardes d'enfants, d'accord, mais les personnes âgées, elles disent qu'elles souhaitent rester à leur domicile, si possible jusqu'à leur mort, et c'est moins coûteux que de les mettre dans des EHPAD où en plus le personnel a des conditions de travail ultra mauvaises.
Alors, sur la question de le faire à domicile ou pas à domicile, c'est effectivement le fait, ça peut être moins coûteux de s'occuper des personnes âgées à leur domicile. La question est de quelle manière. On a aujourd'hui, par exemple, l'hospitalisation à domicile. Les infirmiers qui viennent au domicile des patients...
Ils sont salariés de l'hôpital.
Ils sont salariés de l'hôpital et ils viennent rendre le service au domicile. C'est effectivement moins coûteux que de mettre quelqu'un à l'hôpital et on lui rend un meilleur service et lui, il peut être mieux chez lui, mais les conditions de travail et la qualité du service, c'est mieux contrôlé.
Donc, il y a un pays en Europe à suivre à l'heure actuelle ou pas? Alors, quelques mots.
On pourrait parler de la Suède, par exemple, ou des pays nordiques qui offrent une prise en charge universelle des personnes âgées dépendantes à domicile, qui ont fait le transfert déjà dans les années 90 de sortir du modèle institutionnel et d'offrir des services à domicile. Mais effectivement, c'est des services municipaux essentiellement qui vont fournir ces services. Là aussi, ils ont un service de la petite enfance universel. Ça permet un accès égalitaire de tous les enfants, quel que soit le revenu de leurs parents, un mode de garde collectif de bonne qualité. Donc effectivement, ils ont fait un choix de la dépense publique beaucoup plus contrôlée plutôt que de faire de la dépense fiscale, c'est-à-dire des réductions d'impôts qui bénéficient finalement qu'aux familles les plus aisées en France.
Dans les années 60-70, l'électroménager a libéré les femmes, les machines à laver, le lave-vaisselle, l'aspirateur. Est-ce qu'un jour la robotisation, l'intelligence artificielle vont faire disparaître une partie des emplois à domicile? C'est déjà le cas avec la domotique pour les personnes âgées. Est-ce qu'un jour, il n'y aura plus du tout de ces emplois à domicile?
Ils seront peut-être différents. Ils seront peut-être différents. Il y a besoin d'humains quand même. Après, peut-être que les humains qui les feront seront beaucoup plus efficaces et feront un travail de meilleure qualité, peut-être dans des conditions de meilleure qualité. Bah, c'est une vision idyllique, hein, mais c'est ça la perspective, quoi. Et après, il faut. Mais ça ne sera pas forcément tout seul.
C'est dit que ce n'est pas ce que vous souhaitez, vous. Même si vous n'avez plus envie de travailler chez des particuliers, vous avez envie de continuer à vous occuper d'enfants, non?
Bien sûr. J'aime pour. Maintenant, dans ma tête, j'ai dit. Qui c'est qui va me garantir que je veux travailler dans une maison là où il y a des enfants et qu'il ne m'arrive rien du tout?
C'est pour ça que vous ne voulez plus travailler chez des particuliers. Merci en tout cas d'être venu dans l'émission, Nassira Siddique. Merci à vous. On vous souhaite le meilleur pour 2019.
Merci à vous.
Puisque c'est encore l'époque de l'année, on peut souhaiter les vœux. Et merci à vous, Clément Carbonnier, Nathalie Morel. Le retour des domestiques aux éditions du Seuil. Et merci à tous les auditeurs. On n'a pas eu le temps de faire passer tout le monde, mais on réabordera bien sûr ce sujet. À demain les voisins.